Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Et pour évoquer la qualification de l'Atalanta Bergame pour la finale de la Ligue Europa, une victoire claire et nette 3-0 face à l'OM. L'OM qui s'arrête donc en demi-finale. Les Italiens ont nettement dominé cette rencontre alors que l'équipe de l'Olympique de Marseille, vous l'avez sans doute suivi sur notre antenne, était impuissante, multipliant les imprécisions. Nous allons y revenir. En tout cas, là-bas à Bergame, les supporters fêtent joyeusement cette DA qui offre une première finale européenne à son club. À Dublin, la finale se jouera finalement entre l'Atalanta et l'insubmersible Bayer Leverkusen, revenu de très loin ce soir et qui a écarté la Roma, mais qui a aussi conservé son invincibilité. Le Sili National Olympique, l'équipe des Guinéens des moins de 23 ans, s'est qualifiée pour la 33e Olympiade qui se jouera à Paris dans 78 jours. Vainqueur de l'Indonésie cet après-midi à Clairefontaine, Cédric De Oliveira y était. Une 18e finale de Ligue des Champions, ça c'était la grande Coupe d'Europe et ça sera pour le Real Madrid face au Borussia Dortmund. Les Meringuets ont hier soir fini par éliminer le Bayern Munich sur le score de 2-1. Les Bavarois ont été qualifiés une vingtaine de minutes et Thomas Tuchel digère bien mal cette élimination à raison. Dans ce studio, il est resté, malgré sa déconvenue. Bonsoir Marc Lébras.
Bonsoir Annie, bonsoir. Mais j'ai bien fait de venir parce que j'ai trinqué avec vous pour votre anniversaire, c'était hier.
Ben
donc
oui.
Joyeux anniversaire, un peu en retard.
Ben non, mais vous n'êtes pas venu pour rien Marc.
Exactement, au moins une joie et un plaisir ce soir.
Bon, merci beaucoup. Sophiane est restée avec vous aussi parce qu'on ne vous épare plus. Bonsoir,
bonsoir
Sophiane.
Bonsoir Annie.
Et puis il y a Thomas Saint-Léger qui nous attend.
Bah oui,
évidemment,
on ne sépare pas le trio.
Du côté de Bergame, il y a celui qui viendra secouer un peu tous vos propos, Shérif Guémour. Bonsoir Shérif.
Bonsoir Annie, joyeux anniversaire, je n'étais pas au courant.
C'est pas grave. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Mathieu Degalre est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
Des petits dribbles chaloupés face à Kondogbia, la frappe contrée, le but, le but de l'Atalanta, on le sentait venir à Demola. Lokman, il a fait danser Geoffrey Kondogbia. Lokman dans la surface de réparation, la frappe et le 2-0. Ruggeri qui vient trouver la lucarne de Paul Lopez. Peut-être le 3-0 pour El Bilal Touré, la frappe d'El Bilal Touré, 3-0 et tout le banc qui va exploser et rejoindre le buteur malien.
Cette suite de Bergame signée Debussy, alors c'est pas pour souligner la joie des Italiens, mais c'est pour souligner la tristesse des Marseillais. Car pour l'instant, les images que l'on a encore sur le match, c'est une joie communicative, plutôt dans le stade de Bergame. L'Atalanta offre à son public une première qualification sur la scène européenne pour une finale. Eux qui, il y a quelques années, on en avait beaucoup parlé avec Matteo Cioffi, s'étaient hissés pour la première fois en Ligue des Champions, toujours sous la houlette de cet entraîneur charismatique qui est Gasperini. Les joueurs de l'Atalanta, il faut le dire, ont largement dominé ce match retour. Thomas de Saint-Léger, on vous retrouve. Bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Thomas, la fête dans ce petit stade, racontez-nous, amputé de sa tribune, hein, ça faisait bizarre, on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'ambiance, alors que si, il y en avait.
Oui, vous venez un peu de casser l'ambiance avec votre requiem pour l'OM.
Je vous ai dit, c'était pour le Marseillais qu'on a dans le studio, en fait.
Au coup de sifflet final, oui, c'était assez spectaculaire. Des feux d'artifice de l'extérieur du stade sont arrivés au moment du troisième but d'El Bilal Touré. Évidemment, là, la tribune principale a explosé. Et d'ailleurs, il reste encore une bonne 2-3 000 supporters qui sont là à fêter la qualification de leur équipe pour cette première finale de Coupe d'Europe. C'est vrai que ça fait drôle, une demi-finale avec 15 000 spectateurs, mais je peux vous dire que ce soit les Marseillais qui étaient juste à ma droite et qui sont toujours là d'ailleurs en train de regarder leur smartphone, les mines déconfites, et les Bergamas qui savent aussi donner de la voix, ça faisait un petit boucan quand même. Oui, une atmosphère mine de rien de demi-finale, on y était, les Marseillais un peu moins.
Oui, alors on va vous libérer bientôt, Thomas de Saint-Léger, mais résumez-nous finalement cette rencontre bien déséquilibrée, contrairement au match aller qui avait laissé quelques espoirs au peuple marseillais.
Je crois que c'est le score qui résume tout. 3-0, et encore aux occasions, j'ai pas les statistiques sous les yeux là, mais il y a dû avoir une bonne douzaine d'occasions pour l'Atalanta, et en face pas grand chose. On a très vite compris dès le début de rencontre que les Marseillais étaient complètement asphyxiés, inhibés peut-être par l'enjeu. Ils n'ont pas existé en première période. En seconde, c'était un poil mieux. On a eu un moment d'espoir avec Illiman Ndiaye qui s'est retrouvé en face à face avec le gardien de l'Atalanta, un petit lob qui est passé juste à côté, à 1-0 seulement à ce moment-là. C'est vrai que ça aurait pu changer, on le disait dans le direct, la face de cette demi-finale, mais sur l'ensemble, il n'y a absolument rien à redire. L'Atalanta avait était trois classes au-dessus de l'OM et a marqué trois buts de plus, tout simplement.
On avait cru qu'il y avait des bonnes raisons objectives pour croire à cette qualification pour une finale. Eh bien, après le Paris Saint-Germain, c'est l'OM qui subit la déception de ne pas atteindre une finale européenne. Merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger, d'avoir été en direct avec nous cet après-midi et ce soir. Et toute la soirée avec nos auditeurs, et on vous retrouvera sur l'antenne plus tard. Merci.
Oui, parce qu'on a les interviews et on a hâte de savoir ce qu'ils vont nous raconter, les Marseillais, comment ils vont expliquer aussi ce non-match. Oui. Les raisons, on ne les a pas encore. Là, on part sur des supputations, mais on aimerait bien savoir ce qui s'est passé parce que tout semblait réuni. Le physique, Gasset nous l'a dit hier, on est au point. L'ambiance, il y avait quand même un COP marseillais. Bah, c'est ce qu'il disait hier, moi je le cite. L'ambiance, petit stade avec quand même les Marseillais qui sont là. Et puis cette atmosphère autour de la ville en ce moment. Enfin, tout était réuni pour qu'il se passe quelque chose de grand. Le match aller aussi avait laissé quelques espoirs malgré tout. Et puis là, patatras, tout retombe. Donc je vais aller tout de suite filer pour qu'il nous explique tout ça.
On a vu l'impuissance de Pierre-Emerick Aubameyang et ses larmes surtout. Merci beaucoup, Thomas. Marc Libra, comment comprenez-vous, pouvez-vous interpréter ce mauvais match des Marseillais?
Bon, ça ne s'explique pas. Il passe à travers le coach. Gasset explique hier que tous les feux sont au vert, tout va bien se passer. Après, on voit qu'il peut dire ce qu'il veut. Si les joueurs ils répondent pas présent...
Mais voilà. Comment on peut ne pas répondre présent quand on rêve d'une finale?
Est-ce que... C'est difficile à dire. Est-ce qu'ils sont pas... La motivation, elle doit être là, mais il n'y a pas eu de mauvais gestes. Ils ont respecté cette équipe. Ils ont subi le match. Ils ont bêtement assisté à... Moi, vraiment, nous l'avons commenté avec Sofiane, ils se sont promenés, ils sont allés en Italie, ils ont mangé un plat de pâtes, ils sont allés au stade, ils ont vu l'Atalanta jouer, puis ils rentrent ce soir, ils prennent l'avion, parce qu'on a un super avion, on rentre, et puis à 3h, ils sont chez 3 du matin, ils sont à la maison. Mm-hmm. Ils sont venus, ils ont vu, puis ils sont...
Ils en ont pris trois.
Non, mais tu vois, t'en as pris trois, donc oui, t'as des regrets, parce que malheureusement, mais ça ne s'explique pas comment, à un moment donné, Kondogbia, qui est des joueurs qui sont habitués, alors Paul Lopez a revenu... Aubameyang, c'est un autre débat. Aubameyang, il n'est pas servi. On y a balancé des saucisses pendant 45 minutes pour essayer de le trouver. Mais ce n'est pas possible de jouer au football comme ça. Un milieu de terrain, des joueurs moyens que l'on a vus depuis le début, on sait qu'ils sont moyens. C'est un exploit et un miracle d'arriver là. Ils en sont là. Et ben, malheureusement, je pense qu'ils se sont fait dessus. Ils ont tremblé jusqu'au bout. Ils se sont rendus malades et ils n'ont pas joué.
Chérif Guémour, depuis le début, on a senti d'abord que les Marseillais, on a cru qu'ils étaient bien rentrés dans le match. Mais très vite, et notamment quand il y a eu le premier but, on a commencé à sentir qu'il n'y avait pas de répondant de la part des Marseillais.
Oui, alors d'abord, je pense qu'on s'est laissé un peu abuser.
Le but de Lochmann. Hein.
Oui, alors à titre personnel, je pense qu'on s'est un peu laissé abuser par le match aller où Marseille avait plutôt pas mal joué.
Oui. Ils avaient eu l'emprise sur le jeu. Presque match égal.
Seconde période.
Quand même.
À l'image de Balerdi qui a gagné tous ses duels.
Oui. Seconde période.
Ils étaient là.
C'était une belle opposition sur le match aller en tout cas.
Là, au bout de 5 minutes, comme vous l'avez dit, il y avait déjà plus grand monde. Il y avait déjà des actions dangereuses à partir du premier but. Puis en plus, le premier but, c'est tout ce qu'on déteste, c'est-à-dire un attaquant qui avance et des défenseurs qui reculent. On déteste voir ça. Et alors, je vais revenir sur deux choses. Cette année, la LFP a bien fait les choses. On est passé à 18 clubs. Pour alléger un peu le calendrier des clubs français. Pour les préserver en Coupe d'Europe, on les a exemptés de matchs, aussi bien le PSG que Marseille ce week-end. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu deux clubs français qui physiquement n'étaient pas au point. Déjà, physiquement. Déjà, au bout de 10 minutes, on les sent asphyxiés, de la même façon qu'on n'a pas vu Paris emballer le jeu quand il le fallait avec de la vitesse. Rien que déjà, ça interroge.
Ça interroge.
Bravo la LFP. Non, alors qu'on rappelle que l'Atalanta a joué lundi. Alors,
elle a fait tourner quand même. Oui, ils ont fait tourner. 11,
ouais, mais on reste dans l'esprit de compétition.
Bien sûr.
De la même façon que les Anglais jouent tous les 3 jours et tout, entre la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angleterre. Enfin, bon, bref, toutes ces compétitions.
Ils gardent le rythme en tout cas.
Il faut garder le rythme. Donc, du rythme, ce soir, il n'y en avait pas. Et je pense que Gasperini a dû passer. J'en suis persuadé. Après le match aller. De toute façon, il avait fait des premiers changements assez tôt. Il a refait la même chose cette semaine pour maintenir une pression gigantesque sur Marseille. Je pense qu'il n'a pas dû apprécier le match aller parce que ce n'est pas la vraie Atalanta. Ce n'est pas l'Atalanta que... Moi, c'est mon équipe préférée en Serie A. Je ne l'ai pas reconnue la semaine dernière. Et là, par contre, Gasperini a dû les remettre au taquet. Et là, d'ailleurs, au bout de même pas une heure, il a commencé à faire les premiers changements parce qu'il voulait de la vitesse, il voulait de l'intensité, il voulait de la pression.
On a remarqué notamment que Lookman était titulaire et c'est vrai que quand il était rentré à Marseille, il avait créé beaucoup de soucis déjà.
Parce que Scamacca avait déçu, il était sorti au bout d'une heure. Doroun aussi, je pense, qui était titulaire, il n'a pas joué. Non, je pense qu'il y a eu une reprise en main, un tour de vis de la part de Gasperini. Et puis bon, alors après, bon, bah voilà, c'est l'Atalanta, c'est-à-dire une identité de jeu, un style de jeu. Gasperini est là depuis 8 ans et depuis 2016. Et depuis 2016, à Marseille, on a eu 10 entraîneurs. L'Atalanta, il n'y en a eu qu'un seul.
On va écouter l'auteur du troisième but. Il y a eu Lookman, Ruggeri et puis Elbilal Touré. Le Malien, évidemment, plutôt heureux de la situation et de cette finale en prévision.
Je pense qu'avec les idées du coach, ouais. Et puis voilà, avec la mentalité des joueurs aussi, ouais. On a vraiment poussé et puis voilà ce que ça a donné. Le groupe vit ensemble, tout le monde voit, que ce soit les remplaçants ou pas, le coach a toujours cette mentalité-là, quand tu rentres, donne ce que tu as, ouais. Et voilà, ça paye aujourd'hui.
Et les voilà donc en finale, et c'est une première finale européenne pour une équipe qui joue l'Europe depuis 3 ou 4 saisons. On se souvient que la première fois, ils étaient arrivés en quart de finale. Et depuis, ils s'accrochent, ils sont toujours là et toujours avec ce même entraîneur. C'est aussi un travail sur la longueur, sur le temps. Et c'est peut-être aussi ce qui s'est vu ce soir, Sofia Namazian. C'est toute cette imprécision peut-être autour de l'équipe de l'OM.
Bah c'est finalement presque logique. En fait, vous avez une opposition qui est assez facile à analyser. Une équipe qui se connaît bien, même s'il y a des joueurs qui viennent, Elbilal Touré qui est arrivé cette saison, mais il ne joue pas beaucoup. Vous voyez, il marque un super but dans les dernières secondes. L'OM, on le disait pendant l'intégrale, c'est 4 entraîneurs en une saison, des joueurs qui sont blessés pendant 3 mois et qui reviennent à des moments clés de la saison. C'est compliqué en fait, de faire deux mêmes matchs, le match aller et le match retour. On savait que ça n'allait pas être la même opposition. Sheriff l'a dit, l'Atalanta... à visionner les erreurs, on voit tout de suite la différence. Il y avait un vrai niveau d'écart entre les deux équipes et c'est totalement logique que l'Atalanta soit supérieure à l'OM aujourd'hui.
On va écouter l'entraîneur de cette équipe marseillaise, Jean-Louis Gasset, qui hier disait on va essayer, il faudra faire le meilleur de ce qu'on peut. Malheureusement, on a vu un peu l'envers de cela. Jean-Louis Gasset au micro de nos confrères de Canal+.
Une grande déception. Une incompréhension, parce que à une semaine d'intervalle, on est capable, comme beaucoup de fois, de montrer deux visages. Et ce soir, on n'avait pas l'agressivité. Ils nous ont dominés, ils nous ont gagné tous les duels. Il a voulu plus que nous. Et c'est souvent à l'extérieur que ça se passe. Je pensais que pour une demi-finale de Coupe d'Europe, on allait être à la hauteur de l'événement, et ce soir, on n'y a pas été. mais c'est l'histoire de cette saison. Au Vélodrome, on est des tigres et à l'extérieur, on est des chats.
Jolie parabole.
Non, non, mais il a très bien résumé, il a dit la vérité,
bien
c'est
analysé.
Bien. Non, mais il a analysé son truc. De toute façon, encore une fois, Jean-Luc Gasset est le quatrième entraîneur de la saison. On a eu un président qui a failli partir entre-temps, un directeur sportif. On apprend qu'au niveau du club, ça commence à bouger. La saison n'est pas finie,
ça recommence
dans tous les sens. Ouais. Pour moi, c'est un véritable miracle de se trouver là, que ça soit Villarreal, que ça soit Benfica.
Oui, en prenant un peu de hauteur, on se dit. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on savait que l'OM sur cette double confrontation n'était pas favori a priori. Voyait bien, et vous la regardez cette Atalanta toutes les semaines, Chérif. On sentait que il y avait autre chose.
Annie, depuis Villarreal, Benfica et l'Atalanta, l'OM n'est pas favori. Il passe deux tours, c'est miraculeux, c'est l'effet Vélodrome qui fait la différence. Au Benfica, c'est les prolongations.
C'est beau quand même, il y a une mystique européenne.
Tu as raison, parce qu'il y a un truc qui se passe, ça ne s'explique pas.
Il faut insister quand même là-dessus. Voilà,
mais bien sûr, et quand tu apprends qu'au tirage, malheureusement, tu vas au retour à l'Atalanta, tu dis aïe.
Mais c'est là qu'il y a les regrets du match aller.
Ouais, mais les regrets, tu dois en seconde période, tu peux gagner, tu peux mettre le deuxième et le troisième but et tu les mets pas.
Il n'y a pas le même match aujourd'hui avec un 3-1.
Et là, malheureusement, c'est l'occasion d'Ndiaye qui peut changer le cours du match parce qu'il y a un partout.
1-0.
Ben oui, mais ça fait un partout.
Un partout.
S'il marque. Et bien là, on ne parle plus pareil. Et malheureusement, tu ne marques pas et tu as ton équipe qui coule. Et deux minutes après, tu prends le but. Après, 3-4, c'est anecdotique.
Ouais.
Mais malheureusement, il a très bien dit, ils n'ont pas répondu présent. Mais c'est l'histoire depuis le premier entraîneur de la première journée, quand ils sont passés à travers contre le Pana, qui perdent cette Ligue des Champions. Ils sont capables de jouer 40 bonnes minutes, puis passer 60 minutes à la rue. Ils sont ingérables, ingérables.
Non, mais il y a eu une inconstance toute cette saison de l'OM. On l'a bien vu en championnat, notamment Chérif. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ils étaient sauvés au Vélodrome, mais ils ont fait aussi des matchs nuls, voire des défaites au très mauvais moment de la saison. Alors, avec tel ou tel entraîneur, on n'arrive même plus à savoir avec lequel. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était... toute l'année, finalement, ça a été des montagnes russes du côté de Marseille.
Bah, ce qui sauve un peu cette équipe, ce qui sauve un peu ce club, c'est toujours quand...
Le cœur ses supporters.
Tant que le cœur continue de vibrer... Mais
ça vibrera toujours avec tes supporters.
Oui, mais voilà.
On s'est convaincu la semaine dernière que c'était possible.
Voilà.
Alors tu sais que c'est pas possible.
Oui. Non, mais je veux dire, le match retour contre le Benfica, c'est magnifique.
Mais t'as Paul Lopez qui te sauve, autrement
dit,
t'es plus là.
Et t'as Aubame
qui te sauve. Benfica, c'est Aubame qui te met le but, qui te fait la différence pour marquer ce fameux but qui te fait du bien à 2-1. Tu vois, donc il y a plein de paramètres.
Mais ça suffit pas.
Et non, au niveau, non.
Ça suffit pas. Et puis on regarde un peu le bilan là aujourd'hui. Les clubs qui sont finalistes, Leverkusen, Olympiakos, Fiorentina, Atalanta. Je pense pas qu'ils aient des budgets supérieurs à celui de Marseille. Donc il y a quelque chose qui va pas.
Des projets plus cohérents, sûrement.
Mais
c'est là qu'on voit la différence. C'est sur ce genre de match couperet.
Chérif parlait du problème physique français. On a un gros problème. C'est terrible parce que
en France, on peut pas jouer tous les 3 jours.
Ah non, nous, on sait pas le faire.
C'est là que c'est pas normal. Ils ont eu 6 jours de préparation. 6 jours de préparation.
Tous les professionnels, Henri, Carlos Bianchi qui arrive d'Amérique du Sud là et tout, et l'autre jour il était là. Non mais qu'est-ce qui se passe là?
Mais surtout qu'on se prépare pour ça. On se prépare pour ça.
Écoutons d'ailleurs la réaction, une des premières d'un joueur, et c'est Balerdi, l'Argentin, défenseur argentin de l'OM. Il a l'air un peu paumé, un peu sonné d'ailleurs en sortant du terrain.
On a tout donné, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'on doit donner plus pour aller à la finale. Et après, je sais pas que tu peux dire.
Voilà, il sait pas qu'est-ce qu'il peut dire de plus.
C'est parmi son duel avec El Bilal Touré sur le troisième but.
Non. Puis il y a des fois, quand on est surclassé, on sait plus où on habite, on sait plus quel sport on pratique.
Alors là, on peut repenser à des déroutes homériques et historiques.
Ouais,
et
là,
on peut penser au Brésil, ce fameux 7-1. C'est vrai
là,
qu'il y a un moment où...
On est dedans.
Et là, on a vu le troisième but, on le voit arriver. Mais comme
un éléphant dans un couloir. Les larmes d'Aubameyang, c'est les larmes de l'impuissance.
De l'impuissance.
Il sait que c'est les larmes de la dernière fois. C'est qu'il retouchera plat du doigt ce genre de choses.
En plus.
L'Europe est peut-être une demi-finale.
Bon.
Tout à fait.
En tout cas, merci quand même à Marseille parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions.
Demi-finale de Coupe d'Europe, c'est rare.
Une demi-finale,
en France,
ils en font pas tous les ans. La dernière fois, ils avaient fait la finale et c'est
2018.
Pareil. Hein. On se souvient d'une impuissance en finale. Marc, peut-être ça fait plus mal encore quand c'est la finale face à l'Atlético. Et je crois que c'était 3-0 d'ailleurs.
3-0,
exactement.
Score. Avec la première occasion pour Valère Germain, le Marseillais.
Exactement.
Les Marseillais s'en souviennent encore de cette action.
Lundi, UEFA, merci Marseille.
Clairement. Oui.
Pour ça, merci Marseille.
Ça aurait été un bon moment.
Alors, on pourrait pas avoir une coupe pour ça. Non, mais on peut avoir les jamais les premiers pour l'indice UEFA.
Vous avez une flamme et on va y venir. Mais avant, je voudrais quand même vous donner l'affiche de la finale de la Ligue Europa, messieurs, et qu'on commente un petit peu ça, parce que ça a été une soirée. Alors, autant ça a été quand même clair et net du côté de Bergame, autant là-bas, à Leverkusen, ça a été un match de dingue. C'est-à-dire que tout à l'heure, on s'en est amusé d'ailleurs en se disant, est-ce que vraiment ils ont besoin de jouer ce Bayern Leverkusen face à la Roma?
Allez, comment ils vont leur mettre?
Ils ont été gagnés 2-0 là-bas au match aller. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive, le match est allé jusqu'à 2-0 en faveur de la Roma. Ouais. Et puis,
bah, le miracle Leverkusen.
Leverkusen. On marque à la fin. Vous aviez remarqué quand même, Chérif, qu'il n'y avait pas l'équipe titulaire, bizarrement.
Non, c'était l'équipe à prime. Alors, on rappelle, ils ont commencé à jouer sans, je vais citer les noms, parce que quand même, Schick, Wirtz, Boniface, Kosunu et Radeki, pratiquement.
Ceux qui marquent,
c'est titulaires et c'est
et quand ils sont rentrés, vers le dernier quart d'heure, évidemment, la tendance s'est inversée. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est quand on se passe de ces joueurs-là, ça a fait la différence. Enfin, mais bon, quand même
Ils ont quand même dominé globalement le match. La Roma marque sur deux pénaltys, doublé de Leandro Paredes.
Un ancien parisien.
Ils flambent tous, les anciens parisiens.
C'est pas la soirée des Marseillais. C'est pas la soirée des Marseillais.
Les Argentins aussi.
Les Argentins sont bons.
Ce qui est vraiment fou, on le répète de semaine en semaine, 97e minute de jeu, égalisation de Leverkusen. Ils étaient qualifiés à 2-1.
Il y avait 7 minutes.
Ils étaient qualifiés à 2-1. Ils étaient qualifiés pour la finale, mais c'est irrationnel. Honnêtement,
irrationnel aussi, poussé par cette envie, cette chose de faire une saison sans perdre un seul match. Et là, ce soir, ils en sont à 49 matchs invaincus. Et ce soir, c'est un match nul, 2-2. Mais avec une qualification à la clé pour une finale européenne, ils se retrouveront donc face à l'Atalanta. Et ça promet quand même cette finale, parce que les deux équipes là, alors par contre...
Vous remarquerez que ces deux championnats qui reviennent, qu'on avait un peu snobé. On a cru pouvoir dépasser la Serie A, finalement. On a bien atterri au sol. Serie A et Bundesliga, quand on regarde cette semaine et puis la saison en général...
On s'éloigne. C'est vrai aussi que la troisième finale européenne, qui est celle de la Ligue Europa Conférence, il y a un club italien concerné, c'est la Fiorentina, qui s'est qualifiée
hier. Club Bruges.
Voilà, exactement. Qui a
avec
cru
un
à
budget
sa chance.
Faramineux, deux clubs au budget faramineux.
Et juste pour info, j'ai commenté ce match, le club Bruges est passé par trois tours de qualification, a commencé début juillet, plus de 60 matchs. Ils jouent les finales des playoffs. Ils sont premiers de leur championnat en finale de. Ils sont à plus de 60 matchs. On n'a jamais entendu l'entraîneur avant et après de se plaindre. Ah non, je trouve 60 matchs où tu joues 35 matchs, c'est déjà une crise en France.
Et la Fiorentina retrouvera l'Olympiakos avec son buteur absolument incroyable, Sofiane Amazian, l'international marocain.
Passé par Berkane, passé par le Wydad de Casablanca, c'est une histoire incroyable. Lui qui passait sous les radars, un peu boycotté par la sélection marocaine, on lui préfère Youssef El-Nesyri.
Jusqu'au Chan, exactement.
Là, il se révèle complètement avec l'Olympiakos. Cette demi-finale contre l'Aston Villa, aller-retour.
C'est lui qui a tout marqué.
Il a posé sa signature, un triplé à l'aller, un doublé au retour, ça fait 5 buts en 2 matchs. Il qualifie l'Olympiakos pour la finale d'une Coupe d'Europe, c'est magnifique.
Incroyable.
Et Annie, le Bayer Leverkusen, c'est quoi, 48 ou 49
ils en 49 sont, hein. Ouais, 49. Ce soir.
Alors, pour tous nos auditeurs et pour vous, vous savez, ils ont commencé la série à quel moment?
En mois d'août.
Ouais. Mm-hmm. Contre qui?
Peut-être contre le Bayern.
Contre l'Olympique de Marseille. Pré-saison, ils gagnent.
Ils
perdaient 1-0, ils gagnent 1-2. Depuis, ils n'ont pas perdu.
On peut remercier l'OM pour.
Là, je pense qu'on devrait avoir une deuxième
L'OM
coupe
dans l'histoire.
Mais voilà, ça serait pas mal. Voilà, c'est une petite info sympa.
Il n'y a pas de petit trophée.
En tout cas, Marseille n'aura pas de finale européenne, mais Marseille a la flamme.
Maintenant, 10, 9, 8, ensemble, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
La flamme à Marseille, alors c'est fini, mais fini en beauté, les 188 porteurs du symbole olympique personnalités et anonymes se sont relayés à travers la cité phocéenne tout au long de la journée. Ce matin, c'est Basile Boli, on l'a entendu tout à l'heure, qui avait
au pied de la bonne
débuté
mère.
Exactement. Il descendait de la hauteur de la bonne mère au son des cloches. On a entendu aussi ce beau carillon. Et en fin de parcours, au pied des escaliers du stade Vélodrome, ce sont d'anciens joueurs de l'OM qui se sont relayés. Il y a eu notamment Éric Dimeco, Jean-Pierre Papin. Vous n'y étiez pas, Marc ?
Non, j'étais avec vous. Bah, je suis désolé, excusez-moi.
Et puis, celui qui a allumé le fameux chaudron. Ce chaudron, c'est là où est pérennisée la flamme durant la nuit. Eh bien, c'est Didier Drogba. Et il est au micro de notre envoyé spécial, Baptiste Coulon.
Ça y est, c'est fait. Didier Drogba vient d'allumer la flamme. Nous sommes à Marseille. C'est la première journée. Marseille, vous êtes dans l'histoire, Marseille.
C'est magnifique. C'est de la joie. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de revenir et de voir tout ce public m'acclamer et venir ici avec la flamme, faire partie des coureurs, c'est quelque chose d'extraordinaire et de très particulier pour moi. Je me sens privilégié. Je pense qu'on est tous des privilégiés de pouvoir vivre ce moment-là et de pouvoir partager cet instant de bonheur avec le public, c'est précieux. Je réalise qu'il y a toujours autant d'amour et ce qui est bien, c'est que c'est réciproque, c'est beau.
Elle est belle cette histoire de Didier Drogba.
Bien sûr qu'elle est belle. Elle n'a pas duré longtemps avec Marseille, elle a duré qu'un an. Hein.
Bah oui.
Mais elle a été puissante. Vous savez, on parle souvent des joueurs, qu'est-ce qui se passe dans les clubs Drogba. Ce qu'on va se rappeler, c'est Newcastle, sa fameuse feinte et ce but face à Newcastle en Coupe d'Europe. Et c'est un truc de fou. Donc c'est le genre de choses qui marquent. Et Ribéry, pareil, il est passé par Marseille, il a marqué son époque. Il y a des joueurs comme ça ça fonctionne avec Marseille. Même si au départ, ce n'était pas évident. Puis ça a fonctionné, en tout cas, et de belle façon. Et ça, c'est magnifique. Et le public marseillais vous le rend bien, ne vous oublie pas. Par contre, ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il n'a passé qu'un an.
Mais oui.
Et il y en a plein qui sont passés peut-être 2-3 ans.
Il racontait à Baptiste Coulon, il le racontait aussi, il disait que, en fait, depuis qu'il avait 7-8 ans, il rêvait d'être à l'OM.
Ouais, c'est vrai.
Et que c'était son club de cœur depuis toujours.
Ouais.
Et sur les Southwinners qui avaient un grand
tifo,
il a été invité à signer. Et quand on lui a demandé ce qu'il avait écrit, qu'est-ce qu'il a écrit ?
À jamais les premiers.
À jamais Marseillais.
À jamais Marseillais.
Quand même, lui, il n'était pas.
Bah, oui, mais
dans la belle histoire.
Oui. Je me rappelle, il marque un coup franc avec Chelsea au Parc et il dit à jamais Marseillais, à jamais les premiers.
Voilà. Allez l'OM.
Et allez l'OM, un truc comme ça.
Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on a ressenti à distance et ce qui semblait se voir, c'est que l'OM était très présent dans ce parcours de flamme. Même si le football n'est pas le sport olympique le plus important, mais ça a été quand même de l'OM, disons, et la présence du stade était très importante.
La ville ne vit que pour l'OM. La ville va passer une bonne semaine si l'OM a gagné. Demain, les Marseillais sont tristes. Les Marseillais étaient euphoriques parce que Paris a perdu. Par contre, demain, ils sont malheureux parce que Marseille... Mais des plus vieux aux plus jeunes. Hein. Mm-hmm. C'est une religion, il faut le comprendre. On va au marché, au Vieux-Port, on va dans les Halles. On ne parle que de l'OM. Que de l'OM. Ça fait bientôt presque 30 ans que j'ai quitté l'OM. Je redescends, je discute avec des gens qui me parlent comme si j'étais parti il y a 3 jours et qui me racontent des buts, qui me racontent des matchs, qui me racontent... Mais c'est un truc de fou.
Même si c'est Florent Manaudou qui fait partie aussi du cercle nautique marseillais, des cercles des nageurs à la plage des Catalans, là, et qui lui aussi symbolise cette ville parce que c'est là qu'il s'entraîne. Et lui,
on les voit ces gens-là, on les croise tout le temps. Mm-hmm. Ils sont à Marseille. Mm-hmm. On va voir un coup, on le croise, on sort, on le croise. C'est des gens qui sont accessibles et que l'on voit. Il y a beaucoup de joueurs marseillais que l'on croise et que l'on voit. Moi, je suis dans Marseille, on en croise plein. Mm-hmm. Et ça, c'est cette proximité. À Paris, c'est plus difficile. Vous ne pouvez pas trop sortir. Et puis, c'est tellement grand. Marseille, c'est un village, en fait.
En conclusion de tout ça, le club de Marseille s'appelle l'Olympique. Donc,
exactement. Et ça, c'est amusant.
C'est vrai.
Il était logique. Mm. Juste au retour des choses.
Vous avez raison.
Olympique de Marseille.
En tout cas, la flamme poursuivra son chemin en France, alors que celui de l'OM s'est donc arrêté ce soir à Bergame. Allez, parlons d'une équipe qui sera olympique, elle aussi. Et c'est la Guinée.
À gauche, Vinicius, bien servi, Vinicius, frappe de Vinicius, au Neuer qui relève.
Et oui, la Guinée a sa flamme éclairée par la sienne, la Guinée olympique. Cet après-midi à Clairefontaine, le Sili olympique, confronté à un énième barrage, hein, parce que pour les Africains, c'est pas simple, ni pour les Asiatiques d'ailleurs, eh bien, contre l'Indonésie. Le Sili, des moins de 23 ans, a décroché un billet pour participer aux Jeux olympiques de Paris, en version masculine, bien sûr. Écoutons le sélectionneur, on le connaît bien, parce que c'est aussi celui de l'équipe A, Kaba Diawara, au micro de Cédric de Oliveira.
Bah, je suis très content, je suis fier parce que comme on le sait, ça faisait depuis 1968 avec une belle génération de joueurs guinéens. Ils étaient allés là-bas au JO, donc voilà, on rentre dans l'histoire un petit peu avec cette génération. On l'a fait à la CAN en passant un tour après les poules, et là encore avec 4-5 joueurs qui viennent de l'équipe A, on a su se qualifier tout simplement, même si ce n'était pas beau à voir, on a souffert, on aurait peut-être dû faire la différence un petit peu avant. On est venu ici à Paris pour ça, et on est content parce qu'on va revoir Paris d'ici un mois et demi à peu près.
Kaba Diawara a parlé, Kaba Diawara est évidemment heureux, même s'il souligne que le match n'était pas franchement un super beau match. Cédric de Oliveira, vous étiez donc à Clairefontaine pour suivre cette rencontre. Que pouvez-vous nous dire de cette rencontre où, évidemment, l'essentiel, c'était de participer et donc de l'emporter?
Mais il a raison, Kaba Diawara, c'était pas un très beau match, mais voilà, on a très vite quand même senti la supériorité des Guinéens, notamment physiquement. Et il y a eu une petite demi-heure, on va dire, d'attentisme. Voilà, on se jaugeait un petit peu, voir un petit peu comment trouver la faille dans cette défense indonésienne. Et puis il y a eu une contre-attaque qui aboutit à un pénalty indiscutable et transformé par Elaïch Moriba, qui était numéro 10 cet après-midi donc à Clairefontaine. Derrière donc 1-0 à la mi-temps, la Guinée a un petit peu géré, elle avait le match à sa main, elle s'est procuré un deuxième pénalty, cette fois c'est Ba qui l'a frappé, le joueur de l'Olympiakos, mais il a touché le poteau cette fois. Et donc dans une deuxième période un petit peu animée, le sélectionneur indonésien s'est fait exclure, et finalement voilà, la Guinée l'a emporté 1-0, et ça suffit donc pour se qualifier pour les JO pour la première fois depuis 1968.
Cette Guinée voulait mettre toutes les chances de son côté, et notamment on retrouve Kaba Diawara quand même à la tête de cette équipe, lui qui est le sélectionneur de l'équipe A qu'on a vu à la CAN et qualifié pour la première fois son équipe en quart de finale. Et sans doute peut-être pour ça la fédération lui a confié cette équipe, ce Sili olympique de moins de 23 ans, avec quelques ingrédients en plus.
Voilà, il y a une forme de cohérence en fait, c'est que la Fegifoot a voulu le prendre parce que il connaît aussi, il a beaucoup testé en fait tous ces jeunes joueurs, donc c'est un petit peu voilà, il les a cornaqués et du coup il les connaît bien. Et en plus là, sur ce groupe de 18 joueurs qui étaient là lors de ce barrage et probablement qui vont aller au JO, en fait il y en a 9 qui étaient déjà en équipe A, enfin qui ont déjà joué en équipe A, du coup voilà, il y a quand même de la cohérence, une certaine logique que Kaba Diawara en fait reprenne en main cette équipe. En tout cas, c'est le pari qu'a voulu faire la Fegifoot, et eh bien il sera sur le banc au JO dans le même groupe que la France, que la Nouvelle-Zélande et que les États-Unis.
Donc belle prestation de la part de cette équipe qui était venue jouer à Clairefontaine dans un lieu un peu improbable, hein, là où s'entraîne l'équipe de France. Mais en tout cas, cette équipe de la Guinée, eh bien elle a réussi à décrocher, ce qui était le plus important, un ticket pour être olympique et pour être à Paris, donc à partir du 26 juillet pour le tournoi masculin, bien sûr. Merci Cédric.
Merci à vous.
Et on a 4 équipes africaines sur 16, Philippe. C'est une par groupe et c'est, ouais, c'est une belle performance.
Oui, puis c'est une belle représentation pour l'Afrique quand même, parce que 4 pays, alors qu'il y a 3 pays européens. Là, pour une fois, l'Afrique ne peut pas se plaindre. Elle est très très bien représentée, 4 équipes sur 16, c'est une remarquable représentation, et en l'occurrence méritée, puisqu'il y a une place de plus gagnée par la Guinée aux dépens de l'Asie, et c'est sympa d'avoir la Guinée en plus, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs, hein, dans cette équipe. Il y a Abibou Camara, il y a Sambasso, il y a Elaïch Moriba dont on a parlé, donc c'est vraiment une équipe qui est... Il y a Conté également, enfin, il y a pas mal de joueurs qui jouent dans l'équipe A et qui vont pouvoir être compétitifs dans le groupe de la France, qui plus est,
ouais. Et ben
avec
voilà.
Nouvelle-Zélande et États-Unis.
Et ben Kaba Diawara se fera sans doute un plaisir d'être dans ce tournoi des Jeux Olympiques qui commence dans 78 jours maintenant. Et puis, pour ce qui est de la Ligue des Champions, eh bien on a depuis hier l'affiche de la finale. Et ce sera donc face au Borussia Dortmund, qui avait écarté le Paris Saint-Germain mardi soir. Le Real Madrid, bien sûr.
À gauche, Vinicius, bien servi, Vinicius. Frappe de Vinicius, on a Neuer qui relève. Nacho avec Rudiger, le centre. Oh là 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 là. C'est toujours revu. Oh, le but est validé.
Il est extraordinaire. Cette équipe est folle.
C'est historique. Ce Real est fou.
Le Real est en finale, ça rime hein, finalement, c'est facile. Hier soir, dans un stade Bernabéu débordant, hein, avec ses tribunes qui maintenant montent si haut, elles étaient remplies jusqu'aux toits fermés pour l'ambiance. Les Merengues ont fait frissonner, trembler leur public dans un scénario ben, parfait pour l'adrénaline. On a pourtant cru que les joueurs allaient regretter leurs multiples occasions raté, car le Bayern a ouvert la marque à la 68e minute, mais le Real a renversé la situation, vous l'avez entendu. Et on va écouter le double buteur de cette soirée, parce que c'est une histoire incroyable. Double buteur, c'était José Lu.
On rêve toujours d'être là au bon moment. Le premier but, c'est parce que j'étais prêt, que je suivais le jeu. À cet instant, ils étaient fatigués et ils défendaient de plus en plus bas. Je pense que l'on rêve tous de vivre des soirées comme celle-ci. En tant qu'attaquant, on rêve aussi de marquer des buts. Et s'ils sont comme ceux d'aujourd'hui, c'est encore plus bon. Nous avons gagné, nous sommes en finale. En fin de compte, les matchs se gagnent avec les sentiments et les tripes. L'entraîneur l'a dit avant le match, ces matchs, on les arrache avec le cœur. Et je pense que Madrid, on a beaucoup de cœur.
C'est l'histoire dans l'histoire, José Lu, parce que finalement, l'homme du match, hier, on l'a vu avec son trophée, il était tout content, c'est Vinicius, que tout le monde connaît et que tout le monde admire. Mais malgré tout, José Lu, le remplaçant qui rentre, le Real a ce numéro 9 sur le banc. Et c'est une histoire incroyable, absolument,
c'est
Philippe.
C'est une histoire géniale, c'est un joueur qui a été formé au Real, mais qui a fait une carrière... relativement moyenne, enfin correct, oui. Mais relativement moyenne un peu partout. À l'heure actuelle, il est en deuxième division, je ne sais même plus dans quel club d'ailleurs.
Il dépend de l'Espagnol. L'Espagnol de
Barcelone. L'Espagnol, et il est prêté. Il a été prêté déjà l'année dernière, et là, il a été prêté au Real Madrid.
Un prêt payant de 500 000 euros.
C'est pas cher pour ce qu'il a apporté. Oui,
Pour ce que paye le Real en général.
Et c'est assez hallucinant. C'est une histoire comme le foot peut en réserver. C'est bien de temps en temps qu'il y ait des clubs comme Dortmund pour rappeler que le foot, c'est pas que l'argent, etc. Et puis qu'un José Lu vienne au secours du Real Madrid, le club des grandes stars, des plus grandes stars du monde, c'est réconfortant aussi.
Il est espagnol, il est désormais international. Hein, José
Lu, il a 34 ans, un truc comme ça.
Oui, il a 34 ans et il a été convoqué pour ses premiers matchs très très récemment. Donc c'est une récompense absolument.
Et il marque en sélection.
Et aussi, exactement.
Et il marque aussi beaucoup avec le Real, parce qu'il joue très peu,
oui,
mais il marque beaucoup.
Il rentre et marque.
Son ratio
souvent,
est absolument incroyable.
C'est une histoire qui est incroyable, mais c'est une histoire que je dirais qui devient presque un tout petit peu moins incroyable ces derniers mois, parce que c'est un joueur qui se révèle à un très haut niveau sur le tard. Alors c'est rare, à ces âges-là, normalement, on est plutôt en train d'essayer de penser à sa fin de carrière et atterrir dans un club.
Il me fait penser
club.
Au buteur, comment s'appelait le buteur de Bilbao? Qui a eu une fin de carrière fantastique à Ursaïs.
C'est un nom à peu près comme ça. Donc, il est aujourd'hui en sélection, titulaire. Enfin, c'est un parcours assez incroyable.
Incroyable. Et alors, un scénario incroyable, Étienne. Hier,
incroyable et classique à la fois.
Comme d'habitude.
Oui, alors, c'est vrai. Et avec le Real, on les appelle pas les Later Real, mais on pourrait aussi leur dire de renverser la tendance comme ça et puis de se dire, mais il va encore se passer quelque chose. On est à la 87e minute, on se dit, il se passe quelque chose. Mais surtout, peut-être Étienne, Manuel Neuer fait un match parfait jusqu'à la 88e minute.
Oui,
Il relâche ce ballon et José Lu est là, le numéro 9.
On avait retrouvé l'immense Neuer qui était absolument infranchissable.
Dans toutes les parades possibles.
On a l'impression que c'est impossible de lui marquer un but et qu'il va amener le Bayern en finale. Et puis, il fait cette boulette parce que c'en est une. Vraiment, il relâche un ballon facile et derrière, tout s'enchaîne pour le Real. Je dirais comme d'habitude, avec on égalise, on prend l'avantage. Et pour que le match soit absolument historique et fou, un peu comme tous les les matchs du Real, bah, la polémique énorme de fin de match avec.
On va y venir.
Voilà, avec mais ce,
sinon,
avec
ça n'aurait pas été drôle. Ouais.
Oui. Alors, simplement, j'aurais voulu aussi qu'on s'arrête peut-être sur les changements auxquels procède Thomas Tuchel. Parce qu'il va peut-être vite en besogne pour conserver le résultat, et notamment en sortant Harry Kane, Philippe. Parce qu'on va l'entendre, sa colère après. Mais oui, peut-être qu'il s'est trompé aussi.
Peut-être. Mais tout le monde peut juger. Après, c'est toujours difficile. Parce
bien
que lui vit avec son groupe toute la semaine. Toutes les semaines, et il sait que un tel est fatigué et qu'il faut le changer ou pas. Il fait passer l'équipe à 5 parce que le Real pousse de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de pression sur la défense centrale qui n'est pas extraordinaire en plus. Donc il sent qu'il y a besoin de faire ça. Est-ce qu'il le fait au bon moment? Est-ce que c'est bien de le faire parce que ça donne un signal à l'adversaire de presser de plus en plus haut et de pousser encore plus? Est-ce que c'est bien de faire sortir Harry Kane, qui est sûrement très fatigué à ce moment-là? Fatigué, il n'aurait pas gardé mieux le ballon que Choupo-Moting? Toutes ces questions-là, c'est assez facile toujours pour nous de dire après match. Même pour eux d'ailleurs, je pense qu'un entraîneur après match, il pourrait débriefer et se dire « Bon, là je me suis gouré, là j'ai fait ci, là j'aurais dû faire ça, etc. »
Vous en connaissez qu'ils fassent ça?
Ils ne le font pas en conférence de presse. Mais non. Je pense qu'eux, dans leur bureau, ils se disent… tout seul avec eux-mêmes. Mais voilà, bon, ça, c'est, c'est vrai que ça paraît… ça paraît des erreurs, mais bon, encore une fois, il est plus proche de son équipe que nous.
Mm-hmm. En tout cas, donc, on va y venir à ce
et
fait
puis
de
d'autres
de
ont
match.
Été renversés au Real dans des fins de match comme ça. Mm-hmm. Et peut-être qu'ils n'avaient pas fait d'erreur et ils ont été renversés quand même.
Un fait de match, donc, qui a évidemment et qui fait toujours beaucoup parler, et évidemment, sur ces satanés réseaux sociaux. C'est cette décision de l'arbitre Marcignac, nous on le connaît bien, on se souvient de certaines décisions qu'il avait prises aussi en finale de Coupe du Monde, n'est-ce pas? Et là, il a sifflé un hors-jeu sans laisser l'action se terminer. Pour Thomas Tuchel, ce n'est pas une décision normale.
I think it's pretty clear and cannot be, in my opinion, any doubt that it's against every rule of modern football.
Selon moi, il n'y a aucun doute que cette décision va à l'encontre de toutes les règles du football moderne. La première grosse erreur vient du juge de ligne. Il a fait cette erreur sur une action dans le temps additionnel. Lever son drapeau sur cette dernière action, quand tu n'es pas sûr qu'il y a hors-jeu à 100%, il faut vraiment oser avoir le courage dans une situation comme ça. C'est une énorme décision, et c'était la mauvaise. L'arbitre derrière a encore une chance quand il voit ça, et que l'on gagne le deuxième ballon, que l'on gagne le rebond, que l'on tire dans les 5 secondes qui suivent, de ne pas siffler. Et là, il prend la décision de siffler. C'est contre toutes les règles, je suis désolé. On l'accepte, bien sûr, on a perdu, c'est comme ça. Mais ça ne serait pas arrivé si ça avait été en faveur du Real Madrid.
Étienne Moati, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il y a encore un arbitrage favorable pour le Real Madrid?
Alors, Thomas Tuchel, il a l'habitude d'être véritablement excessif. Là, pour le coup, de mon point de vue, il ne l'est pas. C'est une erreur, mais énorme, colossale erreur qui a été faite hier soir. C'est absolument incroyable. Pas parce que c'est une erreur d'arbitrage, mais parce que c'est une erreur technique majeure.
De méthode. Erreur de méthode.
Exactement. C'est clairement établi maintenant depuis plusieurs saisons qu'on laisse l'action se terminer et qu'on voit après si il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu.
Qu'on peut imaginer que c'était dans la précipitation? On était à la 14e minute ou 13e minute
Temps
additionnel. Il y en avait eu sans arrêt parce que des joueurs avaient des crampes, se blessaient, rentraient, sortaient.
Bah, je dirais que c'est même encore pire parce que c'est à ce moment-là du match. D'ailleurs, à aucun moment on est censé prendre des risques, mais à ce moment-là du match, il n'y a aucun risque à prendre. L'arbitre de touche doit évidemment pas lever son drapeau, laisser l'action aller jusqu'au bout. Je dirais même que l'arbitre central, même s'il voit son arbitre de touche lever son drapeau, mais pourquoi est-ce qu'il siffle immédiatement comme ça?
Parce que tout le monde
c'est
s'arrête.
C'est une deuxième erreur, mais évidemment, tout le monde s'arrête et derrière, il n'y a plus de possibilité d'aller voir le VAR. Si vous êtes aujourd'hui bavarois, que vous avez égalisé dans les arrêts de jeu après avoir été repris comme ça par le Real et que vous êtes sorti et que vous n'allez pas en finale de Ligue des Champions, enfin, je vous laisse imaginer c'est arrivé à un club français, ce qu'on dirait aujourd'hui.
Donc, il y a eu erreur et finalement, le Real est là
non, et
par
alors,
chance.
Là où il faut nuancer ce que dit Étienne, qui est tout à fait juste, c'est une véritable erreur de méthode. C'est tout à fait choquant que l'assistant ait levé ce drapeau. C'est une véritable erreur. Il a entraîné M. Marcignac, qui a dû penser, parce qu'il lève le drapeau quand vraiment le hors-jeu est totalement évident. et que c'est pas la peine d'aller laisser continuer une action et qu'un attaquant se fracasse sur un gardien de but.
On n'est pas près de la surface de réparation à ce moment-là, précisément.
On est
entre la ligne médiane et la surface.
On est pratiquement dans la surface, mais disons que c'est un ballon douteux, c'est-à-dire qu'on est d'ailleurs, c'est la seule nuance que j'apporterai à ce que dit Étienne, parce que la faute elle est réelle, on comprend pas, même si ça arrive de temps en temps. On voit parfois des assistants qui lèvent trop tôt, et puis les arbitres ont le réflexe de suivre tout de suite, parce que l'arbitre, il se dit, bon, s'il lève, c'est qu'à 2 mètres, quoi. Mm-hmm. Et du coup, j'exonère un peu l'arbitre, parce que si l'autre lève, il se dit, bon, c'est qu'à 2 mètres, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Et là où je nuance un peu ce que dit Étienne, c'est qu'en fait, tout le monde a... Les joueurs arrêtent un peu de jouer parce qu'ils sifflent très tôt, effectivement. Oui. Donc, on ne sait pas forcément s'il y aurait eu but.
Bah non.
Et là où je nuance aussi, parce que...
Bon, ça fait beaucoup de nuances, tout ça.
Oui, parce qu'on voit des joueurs qui s'arrêtent quand même, qui ne jouent pas vraiment, qui jouent pas complètement le coup. Et puis, l'autre nuance, j'ai oublié.
Ça faisait trop de nuances. Non, mais là, on parle quand même d'un arbitre qui est censé être un des meilleurs arbitres du monde. Et ses assistants avec lui. C'est une erreur colossale. C'est-à-dire qu'il va impacter d'ailleurs la suite de la carrière de Marcignac. Parce que,
Son assistant, je dirais.
La sienne aussi, j'en suis persuadé. Hein, parce que vous faites une erreur à un moment donné. Une erreur aussi importante dans un match aussi important, dans des arrêts de jeu qui sont aussi importants, c'est trop.
Oui, donc juste une nuance aussi par rapport à des complotistes qui imaginent plein de choses. Au moment où l'assistant lève le drapeau, on ne peut pas dire que l'action de but soit constituée. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout qu'il va y avoir ça, que le ballon va être récupéré une première fois, puis par un autre joueur qui va tirer. On n'en sait rien du tout. Et donc, on ne peut pas imaginer... Enfin, moi, je n'imagine pas une demi-seconde que ce soit un complot qu'il ait voulu protéger le Real.
Non, il a fait une bêtise.
C'est une grosse bêtise.
Il n'y a pas d'arbitre aujourd'hui acheté par un club ou un autre. Ça, c'est vraiment un fantasme de supporter.
Eh bien voilà, en tout cas.
Ça a existé dans le temps.
La finale.
Ça a pu exister dans le temps, comme tu dis.
Ça sera le 1er juin prochain à Wembley, donc le stade de Londres, le Real, face au Borussia Dortmund. Pour la quinte, la décima quinta, hein, en fait, pour
ou
la quinzième peut-être.
Ou la deuxième.
Ou la deuxième, exactement.
Ne pas oublier Dortmund, parce qu'on les a un peu négligés, là.
Ah non, on ne les a pas négligés avant-hier soir.
Il y en a qui l'ont négligé. J'en ai entendu plein qui l'ont négligé.
Ils sont morts de les doigts, d'ailleurs.
Et voilà donc pour ce qui est de la Ligue des Champions. Cette soirée, c'était donc pas celle de Marseille. Marc Libra, Marseille...
Je confirme.
Marseille battu ce soir à Bergame, clairement et nettement sur le score de 3-0.
Bon, ils étaient absents, ils n'ont pas répondu présent. Il y a des façons de perdre, et là, malheureusement, ils n'ont pas répondu présent du tout. Ça restera un gros regret, et même pour les joueurs qui n'ont pas su faire face à une équipe de l'Atalanta qui a pas forcément forcé, qui s'est imposée facilement.
Chérif.
Pareil, mais on va féliciter l'Atalanta quand même, parce que c'est...
Première finale européenne pour ce club italien.
Voilà, il y a une belle dynamique, c'est une belle équipe, un bon entraîneur, une belle équipe.
On travaille sur le temps long terme aussi.
Voilà, donc quelque part, Marseille n'a pas à rougir. Bon, évidemment, on sort d'une semaine qui n'est pas très lumineuse, parce qu'on aurait aimé voir aussi bien Paris que Marseille se donner à fond, tout donner, ne rien regretter. Et puis, on a encore vécu une semaine à la française, quoi. Que ce soit au mois de février ou au mois de mai.
Oui.
Il y a la victoire à la Madrid et puis il y a la semaine à la française.
Pourtant, c'était prévu d'aller en finale. Les deux clubs allaient en finale, c'était prévu.
C'est ce qu'on aurait aimé, nous, à Radio Foot International.
Il ne nous reste plus que l'équipe de France et l'Euro, comme toujours. Parce qu'en France, on n'a que ça.
Mais je crois qu'on aura des Allemands face à nous et ça ne va pas être simple. C'est la fin de cette deuxième émission du jour. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir aidés à analyser tout cela. Et puis demain, eh bien, c'est le Café des Sports. Et n'oubliez pas vos cartons à tous. On les attend déjà pour l'émission de demain. À demain, bonne nuit.